Zacharia Tanifomom, Le chemin de l'obéissance, édition Parole de vie BP, 3F30920 Codonian, page 1, 1993 Zacharia Tanifomom, édition Parole de vie première publication, en anglais 1982 première publication, en français 1988 Zacharia Tanifomom BP, 6090 Yaoundé de Cameroun, tous droits réservés, édition Parole de vie nouvelle édition revue et corrigée. ISBN 2-909100-06-5. Page 2. Préface. Ce livre est le deuxième dans la série intitulée Le chemin du chrétien. Les livres de cette série sont livre 1, livre 2, livre 3, livre 4, livre 5, livre 6, livre 7, livre 8, livre 9, livre 10, livre 11, livre 12, livre 13, livre 14, Le chemin de la vie. Le chemin de l'obéissance. Le chemin du disciple. Le chemin de la sanctification. Le chemin du caractère chrétien. Le chemin de la puissance spirituelle. Le chemin du service chrétien. Le chemin du combat spirituel. Le chemin de la persécution. Le chemin de la prière victorieuse. Le chemin des vainqueurs. Le chemin de l'encouragement spirituel. Le chemin de l'amour pour le Seigneur. Le chemin de l'union éternelle. Les vérités contenues dans ce livre ont eu un effet profond dans ma vie. Depuis que j'ai reçu le Seigneur comme mon Sauveur et mon Seigneur, je me suis senti de plus en plus obligé de proclamer le salut au monde entier. Lorsqu'en 1970, le Saint-Esprit est descendu sur moi, le Seigneur me confia un ministère pour son corps. Je ne serais jamais allé loin sans cette onction indispensable que je reçus seul dans ma chambre un samedi, après-midi à 17h. Lorsqu'en 1978 je rendis témoignage de mon union avec le Seigneur Jésus dans les eaux du baptême, je mis une bonne partie de l'enfer en colère alors que le ciel se réjouissait. Par la grâce de Dieu, je présente dans ce livre ces trois vérités fondamentales que sont le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le témoignage chrétien telles qu'elles sont traitées dans la parole de Dieu. Page 3. Je publie ce livre en priant qu'il amène tous ceux qui sont nés de nouveau à obéir à ces doctrines fondamentales. Puisse Dieu le Saint-Esprit conduire tout lecteur à une obéissance immédiate et continuelle. Que Dieu vous bénisse pendant votre lecture. Puissiez-vous obéir à ce que vous lirez. Yaoundé, le 21 novembre 1982. Zacharia Tanifomom BP, 6090, Yaoundé Cameroun, page 4. Première partie, le baptême d'eau. Lorsque quelqu'un est passé de la mort à la vie dans le Seigneur Jésus, la première chose qu'il doit faire est de se faire baptiser. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous allons commencer notre étude en examinant l'exemple du Seigneur Jésus, car il est notre exemple suprême. Le baptême du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus n'a pas été baptisé lorsqu'il était bébé. Lorsqu'il était encore bébé, il fut présenté au temple. La Bible dit « Quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur » Luc 2, 22. Le Seigneur lui-même a suivi ce modèle pendant son ministère. Quand on lui a amené des bébés, il les bénissait. Il ne les baptisait pas. La Bible dit « On lui amena de petits enfants afin qu'il les touchât. » Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent » Marc 10, 13-16. Le Seigneur Jésus avait demandé à être baptisé. On ne lui a pas imposé le baptême. Il insista pour être baptisé et refusa d'en être dissuadé. La Bible dit « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. » Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Matthieu 3, 1315. Page 5. Le Seigneur Jésus fut baptisé dans le Jourdain. Il entra effectivement dans l'eau. La Bible dit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. » Matthieu 3, 16. Le Seigneur fut oint par le Saint-Esprit après son baptême, et non avant. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et venir sur lui. Matthieu 3, 16. Quand le Seigneur Jésus fut baptisé pour accomplir toute la justice, le cœur du Père fut satisfait de l'obéissance du Fils par le baptême, et il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection » Matthieu 3, 17. En un certain sens, le Père dit les mêmes paroles « Aujourd'hui à tout croyant qui, par obéissance au Seigneur, entre dans les eaux du baptême, pour être baptisé, c'est ici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Seigneur avait la pensée que tous les siens suivraient le même chemin d'obéissance. Il dit à Jean « Il est convenable que nous, non pas je, accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Étant la tête de la nouvelle humanité, il a montré le chemin dans le baptême, afin que tous ceux qui lui appartiennent le suivent. Jésus ordonne d'être baptisé. Le Seigneur Jésus lui-même a donné l'ordre que les croyants soient baptisés. Il a dit à ses disciples « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » Matthieu 28, 19-20. Les disciples reçurent ainsi du Seigneur leur drain. De faire des disciples. 2. De baptiser ses disciples. Page 6. 3. D'enseigner ses disciples à faire des disciples et à les baptiser. Il leur dit de nouveau la même chose, en ces termes: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauve, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, 15-16. Encore une fois, les disciples devaient 1. Aller par tout le monde. 2. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. 3. Quelques-uns croiront. 4. Ceux qui croiront seront baptisés. 5. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. 6. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Nous apprenons ainsi, par ce passage, que pour être sauvé, il faut croire et être baptisé. Ceux qui croyaient mais qui n'étaient pas baptisés n'étaient pas condamnés. Ceux qui ne croyaient pas étaient condamnés. Le baptême tel qu'il était pratiqué par l'Église au temps de la Bible, c'était le jour de la première Pentecôte. Pierre venait juste de prêcher l'Évangile. La Bible dit: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit: repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 3738. Pierre donna ce commandement à ceux qui 1. Avaient entendu son discours. Page 7. 2. Furent convaincus de péché, eurent le cœur vivement touché. 3. Demandèrent intelligemment ce qu'ils devaient faire. Pierre leur demanda de faire deux choses: 1. Se repentir. 2. Être baptisés. Ainsi, ceux à qui l'on s'adressait devaient être capables de se repentir. Ils devaient mettre cette capacité en action. Il devait se repentir. Après la repentance, il devait être baptisé. Il devait accomplir les deux choses à la fois, se repentir et être baptisé. Il ne leur était pas permis de se repentir sans se faire baptiser par la suite, ni d'être baptisé sans s'être auparavant repenti. Lorsqu'ils auraient accompli ces deux choses, Pierre leur promit qu'ils recevraient du Seigneur deux choses: 1. Le pardon des péchés. 2. Le don du Saint-Esprit. Il était évident que s'ils échouaient dans la part qui leur était échue, Dieu n'accomplirait pas sa part. Pierre leur dit encore: car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 2, 39. Nous posons immédiatement une question: quelle est la promesse qui était pour eux, pour leurs enfants et pour tous ceux qui seraient au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellerait? C'est la promesse qu'ils recevraient le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit s'ils se repentaient et se faisaient baptiser. La promesse n'avait de signification que pour ceux qui pouvaient remplir les conditions exigées par le Seigneur. Elle n'offrait absolument rien à ceux qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas se repentir. La promesse était pour ceux que le Seigneur notre Dieu appellerait. Le Seigneur appelle ceux qui sont capables d'entendre sa voix et de répondre, si tel est leur désir. Page 8. Parmi ceux qui eurent le cœur vivement touché et qui demandèrent à Pierre: homme frère, que ferons-nous? Certains ressourant les paroles de Pierre. Ils remplirent la condition en se repentant et en se faisant baptiser ce jour même. Ceux qui furent baptisés s'ajoutèrent à ceux qui y avaient cru auparavant et qui s'étaient fait baptiser. ces gens furent ajoutés à l'église locale en croyant et en se faisant baptiser. S'ils avaient cru sans se faire baptiser, ils n'auraient jamais été ajoutés à l'église locale. Ils auraient été justifiés devant Dieu à cause de leur repentance et de leur foi au Seigneur Jésus. Mais ils n'auraient eu aucune place dans la vie, les conflits, les victoires, etc., du peuple de Dieu sur la terre. Le baptême du premier Africain, acte 26-39, le premier Africain dont le baptême est mentionné d'une façon distincte dans la Bible, fut l'eunuque éthiopien. Le Seigneur envoya l'évangéliste Philippe pour lui rendre témoignage. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus, acte 8-35. Cette bonne nouvelle a dû inclure la nécessité de se repentir et d'être baptisé. Ceci est évident par le fait que la Bible dit comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Acte 8, 36. S'il avait entendu un évangile qui n'incluait pas le besoin de se repentir et d'être baptisé, il n'aurait jamais posé cette question. Il n'aurait pas non plus reçu le ministère du baptême d'eau. Il aurait reçu un message incomplet et serait passé par une expérience incomplète. Lorsque l'Éthiopien demanda ce qui empêchait qu'il fût baptisé, Philippe lui dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, acte 8, 37. » Page 9. Philippe ne s'était pas dit « Voyons. » Ce personnage très important a demandé de se faire baptiser. C'est si merveilleux qu'il veuille condescendre à demander une telle chose. Je vais tout de suite saisir cette occasion de peur qu'il ne change d'idée. Non. Il n'était pas ému par le seul fait que l'homme voulait être baptisé. Il examina la condition spirituelle de cet homme. Philippe, en quelque sorte, lui a dit ce que tu demandes est bon. C'est normal que tu demandes d'être baptisé. Mais attends, tous ceux qui veulent être baptisés ne sont pas qualifiés pour le baptême. Seuls ceux qui croient sont qualifiés et ils doivent croire au Seigneur, non pas avec un cœur partagé, mais de tout leur cœur. Ils doivent être engagés de tout leur être. Lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus de cette façon, il peut être baptisé. Crois-tu au Seigneur Jésus de la façon dont je te parle ? L'eunuque éthiopien répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, acte 8, 37. » C'était une façon de dire « Je m'engage de tout mon être à accepter cette vérité qui affirme que Jésus est le Fils de Dieu. Je m'engage aussi à respecter les conséquences de cette vérité. Je m'engage envers le Seigneur Jésus. » Par cette confession, l'homme avait confessé Christ et répondu aux exigences fondamentales du baptême. Puisqu'il avait ainsi rempli ses conditions, Philippe devait donc le baptiser. Philippe ne lui a pas dit « Eh bien ». Monsieur le ministre des Finances, tu vas faire un long voyage. Ton temps est très précieux. Ne nous fatiguons pas à te faire passer par le vrai baptême. Nous pouvons représenter le vrai baptême par quelque chose d'autre que je vais inventer pour remplacer la méthode courante. Je vais t'épargner l'ennui de te déshabiller, de te plonger dans l'eau et de changer d'habit. Tout cela va te retarder et ce n'est d'ailleurs pas nécessaire. Ce qui compte réellement, c'est la signification spirituelle. N'as-tu pas un peu d'eau ? Je vais t'en verser quelques gouttes sur la tête et ce sera suffisant. Il ne le fit pas, car s'il l'avait fait, cela aurait été une abomie, page 10. Nation devant le Seigneur ? Cela aurait été une aspersion et non le baptême, et il aurait désobéi au commandement de Dieu concernant le baptême. Philippe a simplement continué en faisant la chose correcte. Sans se soucier de savoir si elle était commode ou incommode. La Bible dit « Il fit arrêter le char ». Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, acte 8, 38-39. Philippe et l'Éthiopien ne s'étaient pas simplement tenus au bord de l'eau pour que Philippe verse une poignée d'eau sur la tête de l'Éthiopien. Non. Tous deux descendirent dans l'eau et, après le baptême, ils sortirent de l'eau. À partir de cet exemple, nous voyons qu'une personne devait croire au Seigneur Jésus de tout son cœur avant d'être baptisée, et le processus par lequel elle était baptisée exigeait que tous deux, le baptiseur et le baptisé, entrent dans l'eau et que tous deux sortent de l'eau après le baptême. Nous voyons aussi qu'on ne permettait pas aux circonstances, comme un long voyage, de modifier la méthode de baptême. Le baptême de Saul de Tarse, Saul avait rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas et avait abdiqué devant lui à Teneuf, un tiré neuf. Il fut ensuite conduit à Damas. Une fois à Damas, Saul, qui avait cru, était à présent qualifié pour le baptême. Anania fut envoyé par le Seigneur pour exercer ce ministère. Lorsqu'Anania lui dit « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en » Page 11. Invoquant le nom du Seigneur, acte 22, 14-16. Le baptême est le processus par lequel celui qui a reçu le Seigneur Jésus se lève et est enseveli avec Christ dans les eaux du baptême par un autre croyant en invoquant le nom du Seigneur. Anania dit à Saul « Que tardes-tu ? » Saul était qualifié. Il le savait, Anania aussi le savait. Pour cette raison, il n'y avait aucune raison d'attendre. Il lui fut ordonné non pas d'attendre, mais de se lever et d'être baptisé. Cher lecteur, es-tu aussi qualifié ? T'es-tu détourné de ton péché pour suivre le Seigneur Jésus ? Si oui, ne tarde pas. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. Lorsque Paul fut ainsi exhorté, la Bible dit il se leva et fut baptisé, acte 9, 18. Je te demande de faire de même. Lève-toi et sois baptisé. Le baptême de Corneille le païen, acte 10, ce gentil, était un homme juste et craignant Dieu. Cependant, il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Dieu décida de lui envoyer Pierre pour le conduire au Seigneur, lui et sa famille. Pierre arriva dans la maison de cet homme et il se mit à prêcher un long sermon. Il avait sans doute exagéré, car pendant que le sermon se prolongeait, Corneille crut au Seigneur, ainsi que tous ceux qui écoutaient en même temps que lui. Pendant que Pierre continuait à prêcher, le Seigneur agit comme pour dire « Frère Pierre, pendant que tu continues ton sermon, je vais te devancer et baptiser ces gens dans le Saint-Esprit. » Lorsque Pierre vit qu'ils avaient reçu le baptême dans le Saint-Esprit, il déclara « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui y ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus, acte 10, 47-48. Dans cet exemple, Dieu a bouleversé l'ordre des choses. Page 12. Considérer jusqu'ici comme normal croire, ensuite être baptisé dans l'eau, en enfin, être baptisé dans le Saint-Esprit. Ils crurent, ils furent baptisés dans le Saint-Esprit, et enfin, dans l'eau. Cependant, on ne baptisa pas n'importe qui dans l'eau. Ceux qui furent baptisés dans l'eau devaient remplir les conditions suivantes. 1. Ils ont dû écouter le message de Pierre, le comprendre et l'accepter. 2. Le Saint-Esprit a dû descendre sur eux. 3. Ils ont dû parler en langue, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Ceci veut dire que tous les bébés, ou toutes les personnes qui n'avaient pu ni entendre, ni répondre au message de Pierre, et, par conséquent, dont la conversion n'avait pas été scellée, par le baptême dans le Saint-Esprit, ne furent pas baptisés dans l'eau. Aujourd'hui, certains disent que seul le baptême dans le Saint-Esprit importe. Ils encouragent ceux qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit à ne pas se préoccuper du baptême d'eau. C'est encore là une ruse du diable. Pierre ne permit pas une telle chose. Il considéra plutôt leur baptême dans le Saint-Esprit comme un se prouvant qu'ils devaient être baptisés d'eau, puisque Dieu avait approuvé leur conversion comme étant authentique. Ainsi, le Saint-Esprit, dans lequel le croyant est baptisé, doit conduire à l'obéissance plutôt que de l'en exempter. Cher lecteur, as-tu été baptisé dans le Saint-Esprit ? Gloire à Dieu si tu l'as été ! As-tu également obéi au Seigneur en te faisant baptiser dans l'eau ? Sinon, pourquoi tardes-tu ? Lève-toi immédiatement et sois baptisé dans l'eau. Personne ne doit t'empêcher de te faire baptiser dans l'eau. Tu as reçu le sceau de Dieu déclarant que tu es qualifié. Ne t'exempte pas du baptême, quelle que soit la raison. Obéis au Seigneur. Ne laisse pas passer un autre jour sans l'avoir fait. Page 13. Le baptême du geôlier de Philippe, acte 16. Cet homme fut convaincu de péché quand le Seigneur se manifesta puissamment dans la prison de Philippe. La conviction de péché était si puissante en lui qu'il tomba tout tremblant de peur devant les serviteurs de Dieu et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Acte 16, 30. À cette question, Paul et Sylla répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, Toi et ta famille, acte 16, 31. Ils ne furent pas immédiatement baptisés, lui et sa famille. La Bible nous dit plutôt, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient, dans sa maison, acte 16, 32. Après cela, il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu, acte 16, 33-34. À Philippe, le geôlier fut convaincu de péché et demanda quelle était la voie du salut. On lui dit que toute sa famille et lui pouvait être sauvée. On lui indiqua aussi comment il pouvait être sauvé. Après cela, la parole de Dieu lui fut annoncée, non seulement à lui, mais aussi à tous ceux qui se trouvaient dans sa maison. Cela fut suivi du baptême, non seulement du geôlier, mais aussi de tous ceux qui étaient dans sa maison. Pourquoi le geôlier fut-il baptisé? Il fut baptisé parce qu'il avait répondu à la parole qui lui avait été annoncée. Pourquoi sa famille fut-elle baptisée? Les gens de sa famille furent baptisés parce qu'ils avaient répondu à la parole qui leur avait été annoncée. Que serait-il arrivé si le geôlier avait répondu à la parole et pas sa famille? Aurait-il été baptisé malgré leur incrédulité? Non. Mille fois non. Il ne pouvait pas être justifié sur la base de la foi du geôlier. Toute la famille a-t-elle donc cru? 100. Page 14. Aucun doute. Deux choses le démontrent clairement. Tout d'abord, ils furent tous baptisés. Aucun d'entre eux n'aurait pu être baptisé sur la base de la foi d'un autre. 2. En second lieu, toute la famille se réjouit. Si l'un d'entre eux n'avait pas cru, il n'aurait certainement pas pris part à la réjouissance générale. En effet, comment un incrédule peut-il se réjouir lorsqu'une âme est sauvée? Que serait-il arrivé s'il y avait eu des bébés dans la famille? Aurait-il aussi été baptisé? Certainement pas. Les bébés n'auraient pas reçu la parole de Dieu qui fut annoncée et, par conséquent, ils n'auraient pas rempli les conditions requises pour le baptême. Ils n'auraient pas non plus été capables de se réjouir avec les autres. Le baptême des enfants, Dieu n'a pas de petits-enfants. Nous ne lisons nulle part dans la Bible que des enfants furent baptisés. Comme nous l'avons vu clairement, la foi au Seigneur Jésus est une condition préalable pour le baptême. Les pécheurs doivent se repentir et recevoir le Seigneur Jésus. C'est alors qu'ils peuvent être baptisés. Les bébés ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Les bébés ne comprennent pas leur état de perdition devant Dieu. Les bébés ne peuvent pas se repentir. Les bébés ne peuvent pas recevoir le Seigneur Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Par conséquent, les bébés ne doivent pas être baptisés. Que faut-il faire lorsque les parents sont chrétiens? Eh bien, Dieu n'a pas de petits-enfants. Il a des enfants. Les gens doivent être individuellement et personnellement reliés au Seigneur Jésus. Il n'y a pas de gène de la foi au Seigneur qu'un parent peut transmettre à son bébé. Par conséquent, les bébés des chrétiens naissent dans le royaume du diable et doivent perdre son... Page 15. Néanmoins, à travers la repentance et la foi au Seigneur Jésus, sortir du royaume du diable pour être transportés dans le royaume de Christ. C'est alors qu'ils peuvent être baptisés. Les baptiser avant cela est un mensonge du diable qui a pour but de tromper des multitudes de personnes. Oh. Des multitudes sont maintenant en enfer et nombreux sont ceux qui s'y dirigent parce qu'ayant été baptisés enfants, on les a trompés en leur faisant croire qu'ils étaient devenus enfants de Dieu. Qu'en est-il de la pratique selon laquelle il faut baptiser les bébés et, plus tard, leur parler du Seigneur Jésus pour les amener au salut en Christ? C'est encore là une fausse doctrine qui dit celui qui sera baptisé et qui, plus tard, croira, sera sauvé. C'est aussi une doctrine du diable, car le Seigneur Jésus a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Dieu l'a dit et continue à le dire. Quiconque renverse l'ordre des choses établies par Dieu ne restera pas impuni. Apocalypse 22, 18-19. Le baptême des Éphésiens, un hérobaptême? Acte 19, 1-6. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient, Actes 19, 1-6. Ces gens avaient été baptisés du baptême de Jean. Cela, page 16, veut dire qu'ils s'étaient repentis et qu'ils avaient abandonné leurs péchés et leur voie pécheresse. Après cela, ils avaient été immergés à la façon de Jean-Baptiste, car le baptême se fait toujours par immersion. Ce mot signifie plonger dedans, enfoncer dedans. Cependant, il leur manquait quelque chose. Ils s'étaient repentis devant Dieu, comme Jean-Baptiste l'exigeait, mais il leur manquait la foi personnelle au Seigneur Jésus. Quoiqu'étant des disciples, ils n'étaient pas sauvés. Parce qu'ils s'étaient repentis mais n'avaient pas reçu le Seigneur Jésus, ils ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit. Ils étaient des disciples énormément repentis, baptisés dans l'eau, mais sans Christ, et sans être baptisés dans le Saint-Esprit. Que fit l'apôtre ? Il leur annonça Christ et les conduisit à une union avec Christ. Ils furent régénérés, nés de nouveau. Lorsque Paul fut satisfait de ce qu'ils étaient devenus enfants de Dieu, il ne leur dit pas bien ? Je sais que vous avez été baptisés auparavant de la manière correcte, quoique n'ayant pas encore été justifiés. Je ne vais plus vous embêter. Ce que vous avez reçu n'était pas correct, parce que vous n'aviez pas encore cru. Cependant, nous n'allons pas vous embarrasser en vous baptisant comme il se doit. Nous allons juste considérer votre premier baptême comme valable, bien qu'il n'ait pas été fait correctement. Nous allons demander à Dieu de le sanctifier afin qu'il devienne valable. Non. Paul n'a pas dit cela. Cela aurait été une abomination devant le Seigneur de penser et de dire cela. Il n'hésita pas à les baptiser. Ce fut leur second baptême, mais ce fut leur premier baptême correct. Seul ce baptême comptait devant Dieu. Ce fut ce second et seul baptême correct, qui représenta l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Même si une personne était immergée 1 million de fois, aussi longtemps qu'elle n'a pas reçu le Seigneur Jésus avant l'immersion, ce qu'on lui administre n'est pas le baptême biblique, page 17, que ce baptême ne compte pas devant Dieu. Il est inutile. La personne doit être baptisée par immersion après qu'elle ait cru. Seul ce baptême compte devant Dieu. Certains pensent que Dieu peut sanctifier un mauvais baptême, que ce soit le baptême des enfants ou celui des adultes, qui leur a été administré avant qu'ils soient parvenus à une véritable foi au Seigneur Jésus. C'est encore là, bien sûr, un mensonge du diable. Comme nous l'avons vu, le baptême des enfants est un mensonge du diable, et le baptême des adultes non convertis religieux ou irréligieux en est un autre. Le Seigneur de gloire peut-il sanctifier des mensonges du diable ? Peut-il proclamer juste quelque chose de faux ? Peut-il fermer les yeux devant la déformation de sa parole ? Non. Sa vérité est établie à jamais dans les cieux. Il ne la modifiera jamais. Qu'en est-il de ceux qui veulent bien obéir en se faisant baptiser, mais qui enseignent et encouragent les autres à ne pas obéir ? Le Seigneur dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 19. La signification spirituelle du baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'apôtre Pierre a dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la, page 18, patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était la figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, 18-21. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. c'est faire appel à Dieu pour obtenir une bonne conscience. Pourquoi le baptême est-il l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu? C'est parce que la dette du péché qui pèse sur celui qui accepte d'être baptisé a été payée. Parce que le sang de Christ l'a lavé de tous ses péchés, celui qui est baptisé peut alors venir à Dieu avec une bonne conscience et avec assurance. Une telle personne dit au Seigneur Père, « Grâce au sang de Christ, je suis libéré de ma dette des liens du péché et je viens donc à toi. » Évidemment, seuls ceux qui ont déjà expérimenté la puissance régénératrice de Dieu peuvent se présenter ainsi devant lui. Un incroyant ne peut pas venir de cette manière vers Dieu. Un bébé non plus. B. Une union avec Christ dans sa mort et la mort au péché, la Bible dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Romains 6, 1-3. Lorsque quelqu'un est baptisé, c'est comme s'il disait « Je suis mort avec Christ parce que j'ai été crucifié avec lui ». Le péché a crucifié Christ. Par conséquent, je m'en sépare de tout, page 19. Mon cœur, en coupant avec le péché, sous toutes ses formes et manifestations. Continuer à vivre dans le péché, après avoir été baptisé, c'est une chose terrible, c'est crucifier Christ une seconde fois. C'est une union avec Christ dans son ensevelissement, Christ est mort sur la croix. Il est aussi ressuscité. Qu'y a-t-il entre sa mort et sa résurrection? Il y a son ensevelissement. Sa tombe se situe entre la croix et la résurrection. Christ n'a pas échappé à l'ensevelissement. La réalité de la mort est confirmée par l'acte d'enterrement. Le baptême représente un enterrement. C'est l'enterrement de ceux qui sont morts avec Christ. L'eau du baptême est la tombe où le converti en Christ enterre tout ce qui appartient à son ancienne vie. Dans cette eau, il abandonne sa vieille nature qui a été crucifiée avec Christ. Cher ami, le baptême veut dire que tu as décidé d'abandonner tout ce qui n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu pour toi. D. L'engloutissement du monde dans l'eau. Quand quelqu'un est crucifié avec Christ, le monde aussi est crucifié pour cette personne. L'apôtre Paul l'explique clairement en disant « Pour ce qui me concerne, loin de moi est la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Galates 6, 14. Le monde qui a été crucifié a aussi été enterré avec Christ. Lorsque tu entres dans l'eau du baptême, ton monde entre avec toi dans l'eau. Le monde n'a pas de puissance de résurrection parce qu'il n'a pas la vie de Christ. C'est pour cela qu'il reste englouti dans l'eau. Il, page 20, est mort pour toi. Peux-tu imaginer quelqu'un en train d'aimer, d'admirer et de caresser un cadavre? Non. Ainsi, tous ceux qui ont été crucifiés avec Christ et ensevelis avec lui ne doivent pas aimer le monde. En un sens, ils ne peuvent même pas aimer le monde, car l'amour du monde n'est point en eux. À cela, l'apôtre Jean pouvait dire « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, 1 Jean 2, 15. Ce n'est pas seulement le monde qui est enterré dans l'eau du baptême. Les choses du monde, qui éloignent du Seigneur Jésus, y sont aussi enterrées. Le baptême veut dire que toutes ces choses sont englouties dans l'eau. Il est très triste de retourner encore en arrière pour les aimer et les servir après avoir été enterré. Je veux te rappeler, à toi qui as été baptisé, que le monde est fini pour toi. Tu ne dois plus avoir de plan pour te glorifier, t'exalter et t'adorer toi-même. Tous tes plans doivent être centrés uniquement sur le Seigneur Jésus et son royaume. Tu n'as aucun choix là-dessus. E. Le baptême est un ensevelissement. Nous avons vu que le baptême est un ensevelissement. Normalement, seules les personnes qui sont mortes peuvent être enterrées. Seuls ceux qui, par la repentance envers Dieu et par la foi au Seigneur Jésus, ont pris leur place avec Christ dans sa mort sur la croix, doivent être baptisés. Tous les autres sont exclus du baptême. Nous nous demandons ensuite comment un mort est-il enterré? Lors de l'enterrement, le mort est mis entièrement sous terre. Il n'y est pas mis partiellement. Si quelqu'un a un cadavre enterré et s'il se contente seulement de lui mettre un peu de terre sur la tête, une grande partie du cadavre reste alors à Page 21. Découvert, et il s'agit d'un enterrement très anormal. De même, dans le baptême, qui représente un enterrement, la personne tout entière, de l'orteil jusqu'à la tête, est plongée dans l'eau, comme si on l'enterrait. La Bible dit ayant été enseveli avec lui par le baptême, Colossiens 2, 12. F. Une union avec Christ dans sa résurrection, le Seigneur Jésus, n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité des morts. La tombe ne fut pas l'ultime fin? Après la tombe, il y eut pour lui la résurrection et la vie de résurrection. Une personne qui est enterrée avec Christ dans le baptême doit aussi entrer dans la nouvelle vie en Christ. La Bible dit « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie » Romains 6, 4. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Colossiens 2, 12-13. Ta mort avec Christ sur la croix ne t'a pas imparti la vie de Dieu. Ta nouvelle vie est liée à la résurrection du Seigneur Jésus. Tu es ressuscité avec lui. Lorsque tu es sorti de l'eau du baptême, un seul chemin a été ouvert devant toi, le chemin de la nouveauté de vie en Christ. Le chemin qui t'est ouvert est celui de la ressemblance à Christ, ce qui inclut l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, la compassion, l'humilité, la tendresse, etc. Parce que tu es ressuscité avec Christ, tu dois rechercher les choses d'en haut et faire mourir celles qui sont sur la terre. C'est cela la sainteté, qui est tout entièrement liée au baptême. Là, page 22, Bible dit « Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3, 1-10. G. Le baptême n'est pas la fin. Certains pensent que tout ce qu'il leur faut, c'est se repentir et être baptisés, et ainsi ils auront accompli la volonté parfaite de Dieu, sans y avoir à ajouter quelque chose d'autre. C'est un grand mensonge. Comme nous venons de le voir, il faut à la fois rechercher des choses d'en haut et mettre à mort des choses qui sont sur la terre. Si quelqu'un s'arrête au baptême, Dieu ne prendra point plaisir en cette personne. La parole de Dieu dit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre Page 23. Eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns, selon qu'il est écrit « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir ». Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10, 1-11. Le baptême n'est pas la fin? Persévère dans le Seigneur? Rappelle-toi aussi que le baptême d'eau n'est qu'une partie d'un baptême unique. La parole de Dieu dit : il y a un seul corps, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous, et en tous. Éphésiens 4:4-6. Pour les enfants d'Israël, le seul baptême fut le baptême en Moïse dans la nuée et dans la mer. Pour le chrétien, le seul baptême est le baptême d'eau et dans le Saint-Esprit. Lorsque tu as été baptisé dans l'eau, tu dois continuer et compléter ton baptême en te soumettant au Seigneur Jésus, celui qui baptise dans le Saint-Esprit, afin qu'il puisse te baptiser dans le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit : « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Matthieu 3:11. Après avoir cherché et reçu le baptême dans le Saint-Esprit, tu dois savoir que ce n'est pas non plus la fin. Jésus est la fin. L'apôtre Paul a dit : « Afin de connaître Christ et la puissance de » page 24, sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Philippiens 3:10-12. H. La confession des lèvres sans la régénération actuite 9:24. Même dans l'Église primitive, il y avait des gens qui manifestaient une certaine foi, qui faisaient une certaine confession et, sur la base de cette confession, ils se joignaient à l'Église locale, sans toutefois être d'authentiques convertis. Ce fut le cas de Simon le magicien. La Bible dit : « Il y avait, auparavant dans la ville, un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient : « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le... Page 25. Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il offrit de l'argent, en disant : « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Acte 8, 9-19. La foi de Simon n'était pas authentique. Il était ébloui par les miracles.